Carl Simrock, Conte du temps passé, La montagne de verre. Un homme riche avait un fils unique du nom de Wilhelm. Lorsque celui-ci fut devenu grand, il entendit conter tant de merveilles des pays étrangers qu'il ne fit que prier son père de l'envoyer au loin. Le père eût préféré le voir rester au logis, mais il finit par céder aux instances du jeune homme et le laissa partir. Il voyageait déjà depuis quelque temps, lorsqu'un jour il arriva en face d'une mer paisible. Il n'y avait pas un seul navire, et pourtant il aurait franchi les flots si volontiers. Tandis qu'il demeurait là, dans l'attente, il entendit tout à coup un bruit dans les airs, et aperçut trois grands oiseaux qui planaient au-dessus de sa tête. Il les suivit du regard et vit qu'ils volaient vers une baie. En touchant la terre, ils ôtèrent leurs ailes et se précipitèrent dans l'eau, changés en trois belles jeunes filles. Alors Wilhelm s'approcha doucement, prit un des voiles qu'elles avaient déposés sur le bord et s'en alla au plus vite avec le rat Bernard. Voile merveilleux. Quand les jeunes filles se furent baignées et voulurent s'envoler, l'une d'elles ne trouva plus son rat Bernard. Dans son désespoir, elle monta sur le rivage et vit que le jeune homme qui lui avait pris ce voile était encore tout près d'elle. Elle courut après lui en pleurant, et lorsqu'elle se fut approchée, elle le conjura de lui rendre son voile. Mais il ne pouvait accueillir sa demande. Car plus il la contemplait et plus il entendait sa voix, plus elle lui plaisait. Il lui dit qu'il ne lui rendrait pas le rabenal, mais qu'il ne pouvait plus vivre sans elle tant il l'aimait. Il fallait qu'elle vînt avec lui et acceptât d'être sa femme. Elle y consentit enfin et l'accompagna chez ses parents, qui les reçurent tous deux avec joie, et le mariage fut aussitôt célébré. Les deux époux vécurent heureux pendant quelque temps. Mais un jour, le mari, forcé de s'absenter pour 15 jours, confia à sa mère la clé du coffret où l'avait caché le rabenal, en la priant de la bien garder. Au bout de 15 jours, la jeune femme dit à sa belle-mère qu'elle voulait aller au-devant de son mari, mais qu'il faisait bien chaud et qu'elle n'avait pas de voile pour se garantir du soleil. La mère lui donna la clé du coffret. Elle l'ouvrit pour y prendre un voile et trouva, à sa grande surprise, son rabenal. Vite elle le mit et disparut. Lorsque le fils rentra au logis, il demanda où était sa femme et il la chercha vainement par toute la maison. Enfin la mère avoua qu'elle avait confié à sa bru la clé du coffret et qu'elle ne l'avait plus revue depuis ce moment-là. Il vit alors qu'il avait perdu sa compagne et en fut tellement désespéré qu'il songeait à se tuer. Il se coucha tristement et le lendemain, après une nuit d'insomnie, il lut sur la glace de sa chambre une inscription dont le sens était qu'il devait, s'il voulait que sa femme lui fût rendue, l'aller chercher dans la montagne de verre et la délivrer. Mais où se trouvait la montagne de verre? Il n'en savait rien et personne ne pouvait le renseigner. Enfin, il se dit, « Je veux retourner au bord de la mer paisible où je l'ai rencontrée, peut-être y apprendrai-je ce qu'elle est devenue. » Comme il avait déjà fait un bon bout de chemin, il vit devant lui une plume magnifique. Il la ramassa et arriva au bord de la mer, mais il ne découvrit ni un navire ni une âme. Un grand oiseau seulement volait autour de lui en décrivant de larges cercles. « Mais que peut-il vouloir, ce pauvre oiseau ?» pensa le voyageur. Il s'approcha et lui demanda si par hasard il ne cherchait pas sa plume. « Dans ce cas, dit-il, la voici. » L'oiseau témoigna sa joie, se fit remettre sa plume et s'envola fièrement en décrivant de larges cercles. Puis il revint à Wilhelm et lui dit, « Mais pourquoi es-tu venu au bord de la mer paisible? Peut-être veux-tu la passer? Oh oui, dit Willem, je voudrais bien. Alors l'oiseau l'enleva et l'emporta de l'autre côté. Là, il aperçut devant lui une grande montagne de verre. Tu as certainement envie de monter jusqu'en haut, dit l'oiseau. Oui, repartit Willem, cela me plairait bien. L'oiseau le porta encore sur le haut de la montagne et lui recommanda d'aller tout droit jusqu'à une petite cabane, de frapper à la porte et de demander du travail. Puis il le posa par terre et s'envola. Mais le voyageur s'en alla droit devant lui jusqu'à ce qu'il eût trouvé la cabane. Quand il eut frappé à la porte, une vieille femme vint lui ouvrir, s'enquérant de ce qu'il voulait. Pourrait-il y avoir là du travail? Oui, dit la vieille. Et elle le conduisit immédiatement dans une vaste forêt, lui remit une hache de verre et lui désigna environ 100 arbres qu'il devait couper tous avant le soir, sous peine d'avoir le cou tordu. Il se remit sans retard à l'ouvrage. Mais au premier coup, sa hache se cassa. Il s'assit alors, accablé de tristesse, jusqu'à l'heure de midi où une jeune fille lui apporta de quoi dîner. Le voyant si triste, elle lui demanda ce qu'il avait. Il lui raconta comment la vieille femme lui avait ordonné de couper ses arbres et comment au premier coup, sa hache s'était cassée. La jeune fille lui dit de ne pas s'affliger pour cela, mais de bien manger et de dormir un peu après. Il ne pouvait pas manger beaucoup ni dormir non plus, tant il avait de chagrin. Mais il ferma les yeux et fit mine de sommeiller, et quand il les rouvrit, il s'aperçut que tous les arbres de la forêt étaient coupés. Oh, mais voilà qui va bien, pensa-t-il. Maintenant j'arriverai. Et il retourna tout joyeux au logis de la vieille. Il trouva celle-ci devant la cabane et lui demanda s'il avait achevé son ouvrage. Oui, dit-il, c'est fait. Alors la vieille ajouta qu'elle allait voir si tout était en ordre et qu'elle lui donnerait une autre tâche pour le lendemain. Lorsqu'elle eut tout examiné, elle vit que c'était convenablement fait et que son hôte pouvait se coucher pour cette nuit. Le lendemain, elle mélangea du froment, du seigle et de l'avoine, et dit au jeune homme de faire un tas à part de chaque espèce de grain. Il se hâta d'entreprendre sa tâche. Mais il n'avançait pas, et à midi, il n'avait encore qu'une poignée de chaque sorte. Il s'assit et regarda d'un air triste devant lui. Lorsque la jeune fille qui lui apportait à dîner se présenta, et le voyant tristement assis, lui demanda de nouveau ce qu'il avait, il répondit que la vieille lui avait ordonné de faire un tas à part de chaque sorte de grain avant la fin du jour et que c'était une chose impossible. La jeune fille lui dit encore qu'il ne devait pas s'inquiéter de cela, mais manger gaiement son dîner et dormir ensuite. Il mangea donc un peu et trouva meilleur goût au repas que la veille. Puis il s'étendit pour dormir et en se réveillant, il aperçut chaque tas de grains mis à part. Ah, voilà qui va bien, pensa-t-il. Maintenant j'arriverai. À son retour, il rencontra la vieille sur le pas de la porte et lui demanda si le travail était fini. Oui, dit-il, tout est fait. Elle ajouta qu'elle voulait voir si elle avait lieu d'être contente et qu'elle lui donnerait une autre besogne pour le lendemain, que pour cette nuit il pouvait se coucher. Le lendemain, elle l'éveilla et s'enfuit avec lui au champ. Puis, lui montrant deux ruisseaux qui allaient côte à côte, il lui annonça qu'il aurait à verser l'eau de l'un dans le lit de l'autre, de façon qu'il ne restât pas une goutte du premier. Il entreprit aussitôt de vider le lit de l'un des ruisseaux. Mais lorsqu'il eut travaillé 3 ou 4 heures, l'eau du ruisseau n'avait pas encore diminué. Épuisé de fatigue, il s'assit, le cœur plein de tristesse. À midi, la jeune fille revint avec le dîner, et remarquant l'abattement du jeune homme, lui demanda ce qui l'affligeait. Il répondit qu'on lui avait ordonné de verser l'un de ses ruisseaux dans l'autre, qu'il avait déjà travaillé avec ardeur, mais qu'il n'avait presque rien fait jusque-là. La jeune fille alors lui répéta qu'il ne devait pas s'inquiéter de cela. Elle l'engagea à manger puis à dormir, promettant de faire l'ouvrage à sa place. Le lendemain, dit-elle, la vieille lui imposerait une tâche plus difficile que toutes les autres. Il lui faudrait reconnaître sa femme pour l'arracher de la montagne de verre. S'il pouvait la distinguer parmi 300 femmes qui se ressemblaient toutes, il serait libre, et elle aussi. Mais s'il ne pouvait pas, il accomplirait leur malheur à tous deux. Il aurait à passer deux ou trois fois entre les rangs qui formeraient ces femmes, jusqu'à ce qu'il se sentît piqué par une épingle. À ce signe, il reconnaîtrait sa femme. Il retourna donc, tout joyeux, dans la cabane, et dit à la vieille, qui se tenait sur le seuil, que le travail était fait. Elle dit qu'elle allait voir si c'était la vérité. Et quand elle eut tout inspecté, elle revint lui annoncer qu'il pouvait se coucher, mais qu'il aurait une nouvelle tâche le lendemain. Le lendemain matin, en effet, elle l'éveilla et le mena dans une vaste salle. Il y avait là 300 femmes, toutes jeunes et belles, se ressemblant toutes. Et dans cette foule, il lui fallait trouver sa femme. Il commença à marcher, à passer entre les rangs, et renouvela plusieurs fois l'épreuve, la vieille allant toujours derrière lui. Comme il avait achevé de passer deux fois déjà entre les rangs, il s'apprêtait à revenir sur ses pas pour la troisième fois, il se sentit piquer très fort à la poitrine. Il se retourna vivement, saisit la jeune femme la plus proche et l'embrassa. Au même instant, un craquement et un bruit de tonnerre épouvantables se firent entendre dans la salle. Le corps de la vieille s'était brisé en mille morceaux. La montagne de verre s'était engloutie et à sa place apparaissait une ville tout entière fourmillant d'habitants. Mais notre voyageur n'avait pas même un regard pour ce spectacle. Il prit sa femme par la main et l'emmena du côté de la mer. Et lorsqu'il y arriva, il ne la trouva plus calme et déserte. De grands navires et de petites barques se balançaient sur les flots. Les pêcheurs y jetaient leurs filets. Les moulins tournaient sur le rivage. On ne cessait d'embarquer et de débarquer des marchandises. Et l'on voyait toutes sortes de gens et de métiers. Les deux époux se laissèrent conduire à l'autre bord et atteignirent bientôt leur pays, où on les reçut avec joie et où ils continuèrent de vivre gaiement. Quelque temps après, on apprit que le roi, ensorcelé auparavant dans la montagne de verre, avait fait écrire partout des lettres pour offrir à son sauveur sa couronne et son royaume s'il lui ramenait sa fille. Une de ces lettres parvint jusqu'à Wilhelm et il la montra à sa femme qui reconnut tout de suite qu'elle était de son père. Ils résolurent sur-le-champ de retourner chez lui, prirent congé de leurs parents et commencèrent le grand voyage. En arrivant à la mer, ils virent tout d'abord un navire, mais il fallait attendre qu'il eût abordé. Pendant ce temps, Wilhelm aperçut un mort sur le rivage et deux hommes en train de le battre. Il s'approcha et leur demanda pourquoi il s'agissait de la sorte. On lui répondit que le mort avait laissé des dettes et qu'on le battrait jusqu'à ce qu'il trouvât quelqu'un d'humeur à payer pour lui. Il s'informa du chiffre de la dette et on lui indiqua une grosse somme. Il la paya néanmoins sur l'heure et y ajouta encore quelque chose pour enterrer le mort décemment. Sur ces entrefaites, le navire aborde. Il le frette et reconnaît qu'il lui reste juste assez pour acquitter le prix du voyage. Ils étaient déjà embarqués lorsque surviennent deux officiers qui demandent au capitaine s'il peut les prendre avec lui. Le capitaine prie Willem d'y consentir, ce que celui-ci fait volontiers. Mais les officiers avaient reconnu la fille du roi, car ils avaient été au service de ce prince. Ils étaient bien fâchés qu'un étranger l'eût délivré et fût destiné à occuper le trône grâce au don de sa main. Le navire était en marche depuis quelque temps lorsqu'un jour, se promenant sur le pont, ces hommes poussèrent Willem à l'eau et allèrent dire à la fille du roi, seule dans sa cabine, que son compagnon venait de tomber à la mer. Ils lui déclarèrent qu'ils étaient prêts à la tuer immédiatement si elle ne jurait d'attester à son père que c'était eux qui l'avaient délivré des enchantements de la montagne de verre. Elle jura enfin ce qu'ils voulaient. Quand le navire eut abordé, ils accompagnèrent au château, disant au roi qu'il lui ramenait sa fille et se vantant d'être ses sauveurs et réclamant la récompense promise. Le roi, plein de joie à la vue de sa fille retrouvée, l'interrogea pour savoir si elle avait déjà choisi entre ses deux sauveurs. Elle dit que non. Aussi les haïssait-elle de tout son cœur, mais elle ne pouvait rien dire à son père, pas même pourquoi elle était si triste. Elle croyait son cher Willem bien mort. Il n'était pourtant pas noyé. Un esprit l'avait déposé sur la plage, en lui disant qu'il était l'esprit du mort dont le jeune homme avait payé les dettes et l'enterrement. Il lui fallait maintenant se rendre en face du château royal dans une hôtellerie et y prendre un logement. Et lorsque le roi passerait avec sa fille, et que celle-ci le verrait là, on le resterait tout seul. Willem fit ainsi qu'il avait reçu la vie et on l'installa dans une chambre ayant vu sur le château royal. Un jour, le roi demanda à sa fille si elle ne voulait pas sortir pour se promener avec les deux officiers. L'air lui ferait tant de bien, elle était toujours si triste. Elle répondit qu'elle sortirait volontiers avec lui, mais non pas avec eux. Il prit donc le bras de sa fille et sortit du château, juste au moment où Willem regardait par la fenêtre de l'hôtellerie. Et comme il passait par là, la fille du roi leva les yeux, reconnut son mari et s'évanouit de joie. Le roi chercha à la ranimer et bientôt la princesse ayant repris son sens, il s'informa de la cause de cet évanouissement. La princesse dit que le jeune homme, aperçu à la fenêtre de l'hôtel, lui avait semblé avoir un visage connu. Puis ils continuèrent leur promenade. Mais en passant de nouveau devant l'hôtellerie où Willem regardait encore par la fenêtre, la princesse s'évanouit une seconde fois. Après l'avoir appelé encore à elle, son père lui adressa la même question et reçut la même réponse, car elle ne pouvait lui en dire plus à cause de son serment. Le roi fit comparaître l'étranger devant lui et lui demanda qui il était. Le jeune homme, alors, conta ses aventures et avoua toute la vérité. Le roi demanda s'il pouvait en donner la preuve par un signe. « Oh oui !» dit le jeune homme. Et il tira une bague et un mouchoir que la fille du roi avait brodé elle-même. Le roi reconnut la bague et manda sur le champ sa fille. Elle embrassa l'étranger tendrement et confirma tout ce qu'il avait dit, car elle se crut déliée de son serment, puisque la vérité s'était découverte sans elle. Un grand festin fut préparé, par ordre du roi, qui convia aussi pour ce jour les deux officiers, mais après avoir commandé en secret de garder toutes les issues. Les officiers crurent que la princesse allait choisir un d'entre eux, et arrivèrent sans arrière-pensée. Pendant le dîner, le roi proposa un jeu. C'était que chacun raconta une histoire. Il commença par lui-même par raconter comment, quoi, son royaume avait été ensorcelé par un méchant sorcier et comme quoi il avait recouvré son royaume et retrouvé sa fille. Puis les officiers racontèrent tout au long comment ils avaient fait pour délivrer le royaume et la princesse et comment l'un d'eux devait l'obtenir pour femme et devenir roi. En ce moment, Willem entra dans la salle. Les officiers furent saisis d'effroi et voulurent s'échapper, mais les soldats croisèrent leurs épées et défendirent la sortie. À son tour, Willem raconta l'aventure de trois oiseaux qui s'étaient changés en jeunes filles, celle du Rabenal qui lui avait conquis l'une d'entre elles pour femme, et il dit comment il l'avait perdue, et puis comment il avait dû la délivrer dans la montagne de verre, quels travaux la vieille femme lui avait imposés, et comment elle s'était brisée en morceaux. Il dit sa rencontre avec le mort maltraité, la trahison des officiers qu'il avait jetés à l'eau, et l'intervention de l'esprit du mort qu'il avait sauvé. En même temps, il montra pour signe de la vérité la bague et le mouchoir que la princesse reconnut. Lorsqu'il eut fini, il s'assit à la place restée vide jusque-là entre sa femme et le roi, et réservée aux fiancés. Les officiers tentèrent encore une fois de s'enfuir, mais l'épée leur barra de nouveau le chemin. Le roi alors demanda à ses convives quelle punition méritaient les deux traîtres. On jugea qu'il fallait les laisser périr de faim dans un cachot. Le roi les fit aussitôt saisir et ordonna l'exécution du jugement. Et Willem reçut la couronne avec la princesse.